enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous allons aller au livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 1. Et ce matin, dans quelques minutes, nous allons lire les versets 1 à 4. Nous avons débuté ce matin une nouvelle série, de messages qui s'intitule « La génération Néhémie, sept clés afin de rebâtir ». Sept clés afin de rebâtir. Et par la grâce de Dieu, nous allons découvrir, explorer et découvrir les richesses du livre de Néhémie et ensemble recevoir cette vérité. Une fois que vous avez trouvé Néhémie, vous pouvez regarder ici un moment. Recevoir cette vérité extraordinaire que Dieu, le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être rebâtis afin de rebâtir. J'aimerais que vous commenciez ce message et cette série de messages en disant à la personne à côté de vous et dites-lui sincèrement, lorsque tu tombes, tu peux toujours te relever. Dites ça à la personne près de vous, dites-lui sincèrement. Et alors que depuis quelques semaines et mois, je préparais cette série de messages et j'ai extrêmement hâte de pouvoir la débuter pendant ce printemps 2005. J'ai confiance que Dieu va faire de grandes choses, que des centaines et centaines d'entre nous vont voir la main de Dieu rebâtir quelque chose en nous qui avait été démoli afin d'être mobilisé, motivé, d'être fortifié par Dieu miraculeusement afin de rebâtir quelque chose. Donc, je vais vous dire ce matin, quel que soit ce qui a été démoli dans votre vie, quel que soit ce qui est en ruine dans votre vie, ça peut être votre vie entière, ça peut être votre mariage, ça peut être dans votre cœur, dans vos émotions, une partie de votre vie chrétienne. Il y a une sphère de votre vie chrétienne, de votre appel qui est en ruine. Je veux vous déclarer par la foi que le désir et l'intention et la capacité de Dieu est de nous rebâtir afin que nous puissions rebâtir d'autres. Que si vous avez tombé, vous pouvez toujours vous relever. Alors que je préparais cette série-là depuis des semaines, il y avait une chose qui me manquait. Peut-être que vous allez écouter le message, vous allez trouver qu'il y avait plus que ça qui manquait, mais moi, je trouvais qu'il y avait une chose qui manquait. Et c'était mon début. Vous savez, un prédicateur, ça te prend une intro. Ça prend quelque chose qui, au départ, crée un intérêt pour le message. Alors, je ne prends pas pour acquis que vous êtes intéressé en ce moment. Je ne prends pas pour acquis que vous allez m'écouter. Je dois créer l'intérêt. Je dis, Seigneur, ça me prendrait quelque chose, un punch. Quelqu'un qui tombe puis qui se relève. Et vendredi soir au Colisée de Québec, il y a une jeune fille qui l'a faite juste pour moi. Elle s'appelle Caroline. C'est ça? Elle s'appelle Caroline Marcille. Ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant de cette situation-là, tout le monde sur Internet et sur LCN aujourd'hui, il y avait cet article qui disait « Tout le monde a droit à une deuxième chance ». On peut dire que la chanteuse Caroline Marcille aura une occasion en or de se reprendre après sa prestation ratée de vendredi au Colisée de Québec. Elle qui a offert une présentation désastreuse lors des hymnes nationaux vendredi soir au Colisée, Caroline Marcille a tenté à deux reprises d'interpréter l'hymne national américain. C'était un match entre le Canada et les États-Unis. Mais elle oubliait ses paroles. Elle a quitté la patinoire pour aller chercher le texte de l'hymne. Et en revenant sur la glace, elle a fait une chute. Elle est tombée, pauvre petite. Spectaculaire. Ça nous fait mal. Et tous ceux qui sont prédicateurs et qui ont déjà été sur une estrade, on a souffert terriblement de la voir parce qu'on sait que c'est des choses qui peuvent nous arriver à chaque semaine. Tous les chanteurs de l'Église Nouvelle Vie ont commencé à prier pour elle lorsqu'elle a fait ça. Parce que ça peut nous arriver. Elle a fait une chute spectaculaire pour finalement abandonner sa prestation. Les images en larmes. Les images ont fait le tour de l'Amérique, mais elles ont incité le réseau américain ABC a invité la jeune femme de 24 ans à New York pour interpréter l'hymne américain à la télévision. Et elle le fera lors de la populaire émission Good Morning America. Alors Caroline va le chanter, il l'a chanté, je pense qu'elle était là ce matin, le chanter devant des millions de personnes. Et si vous ne l'avez pas vu, j'aimerais que vous puissiez regarder Caroline pendant un instant ce matin. J'espère que ça va marcher. Bon, si vous vendez d'autres choses que des jetons,
maintenant avec Jean-François. Jean-François, vous voulez revenir sur cette pauvre chanteuse?
Est-ce que ça va marcher? OK, l'équipe technique vient de pâlir. Pas autant que moi, par exemple. Est-ce que ça va marcher?
Les sports maintenant avec Jean-François Poirier. Jean-François, vous voulez revenir sur cette pauvre chanteuse qui a eu bien des ennuis au Colisée Pelletier l'autre soir.
Il n'y a rien qui arrive pour rien à la vie. Hein. Hier, vous savez, vendredi soir, elle a chanté ce petit bout de l'hymne national. En fait, elle n'a pas réussi à le chanter complètement. Et aujourd'hui, le réseau ABC l'a invitée à participer à l'émission Good Morning America pour avoir une deuxième chance. Mais question de se retremper dans l'ambiance, allons vivre ce qui s'est passé justement au Colisée de Québec avant ce match préparatoire entre les Américains et le Canada au Colisée de Québec. On écoute ça tout de suite.
All right. Dites à la personne près de vous, tu peux toujours te relever après avoir tombé. Combien ont compassion de Caroline? Caroline a chanté, je pense que c'est ce matin, elle a chanté devant des millions de personnes, l'hymne américain. J'aimerais vous déclarer aujourd'hui que le cœur, l'esprit du livre, bon, la première raison pour laquelle je montre ça, c'est que vous soyez remplis de compassion pour tous ceux qui viennent ici sur l'estrade à chaque semaine. Combien d'entre vous avez ressenti sa douleur lorsque la première fois, la deuxième fois? La deuxième raison est celle-ci. Quelle que soit la chute que vous avez connue dans votre vie, quel que soit l'échec que vous avez connu, quel que soit ce sentiment de douleur ou de honte que vous avez connu, le livre de Néhémie vous annonce ce matin, quel que soit l'échec dans votre vie conjugale, votre mariage, votre cœur, votre vie spirituelle, votre faillite dans votre milieu d'affaires ou dans des choses publiques ou dans des choses secrètes, le livre de Néhémie annonce à tous qu'il est possible de se relever, il est possible d'être rebâti et que non seulement il est possible pour moi de me relever de ma chute et d'être rebâti, mais que Dieu veut se servir de tout ce que j'ai traversé afin de faire de moi une personne qui va rebâtir d'autres personnes et que ceux qui le croient disent amen et applaudissent les possibilités qu'il y a en Dieu. Qui est Néhémie? Quel est son message? Le nom Néhémie veut dire la consolation de Dieu. Son nom veut dire la consolation de Dieu. Son message? Être rebâti afin de rebâtir d'autres. Il était un conseiller gouvernemental pour un roi de Perse, la puissance mondiale dominante de son époque. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire fictive, c'est pas un « il était une fois » qui se termine avec « ils eurent beaucoup d'enfants ». C'est un homme historique, Néhémie, qui est un homme historique authentique, un récit qui a pris place par les dates qui nous sont données par la Bible. Nous avons des années exactes que ça a pris place 444 ans avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs dizaines de sources historiques qui attestent de l'œuvre, de la présence, de la véracité du récit historique. Et c'est une vraie personne, un vrai homme qui avait un vrai travail. Son poste était un équivalent moderne d'être un conseiller présidentiel ou un conseiller auprès du cabinet d'un premier ministre. Un homme qui était extrêmement occupé, un homme qui avait de grandes responsabilités, un homme qui avait de grandes pressions. Et il devient un portrait de la puissance du consolateur et du peuple consolateur, de l'essence même du cœur de Dieu, qui est de rebâtir chaque être humain, afin que chaque être humain, chaque croyant, redevienne lui-même un bâtisseur, qu'il puisse être utilisé avec son unicité, ses dons, ses talents, sa capacité unique de rebâtir les autres. J'aimerais vous inviter à une aventure de foi dans ces deux prochains mois, ensemble, dans cette série de 7 messages. J'aimerais vous inviter à une aventure de foi. J'aimerais vous inviter à lire le livre de Néhémie au complet. J'aimerais vous défier de le faire cette semaine. Ça prend moins qu'une heure. J'aimerais vous inviter à lire, même s'il y a des chapitres qui sont assez, pas pénibles, mais qui sont avec des généalogies, des choses comme ça. Prenez le temps de lire une fois le livre de Néhémie. Et pour vous aider à lire, c'est pas un livre qui se lit facilement. Alors, j'aimerais vous défier à lire spécifiquement. Voici une façon de bien comprendre Néhémie. Si vous l'avez lu une fois au complet, vous pouvez lire les chapitres 1, 2, 4, 5, 6 et 8. Je vous rappelle que tout le PowerPoint, tout ce qui apparaît sur l'écran est disponible à l'arrière avec chacun des messages. Mais les chapitres 1, 2, 4, 5, 6, 8, c'est le récit narratif. Si tu lis ces 6 chapitres-là, tu as complètement l'histoire de Néhémie. Alors, j'aimerais vous encourager à le lire au complet, mais si vous ne pouvez pas le lire au complet, d'au moins lire ces chapitres qui vont vous donner le sens de Néhémie et de prier avec nous pour que dans les prochaines semaines, Dieu puisse vous remplir, vous aussi, et moi aussi, d'un esprit de révélation. Que cette série-là soit pas seulement qu'on va recevoir une information biblique, mais qu'elle devienne vie dans chacun d'entre nous. Mon intention, ma foi, ma confiance, c'est qu'à travers ces prochaines semaines, il y a des choses qui vont être rebâties dans votre vie et qu'il va y avoir des centaines qui vont se lever et se relever dans cette génération Néhémie moderne pour devenir des bâtisseurs. Lorsqu'on regarde à Néhémie, nous allons découvrir ensemble beaucoup de choses dans cette série. Je voudrais vous inviter à vous lancer ce défi. En ce début de série, c'est le printemps. J'aimerais vous inviter à inviter quelqu'un. Inviter des amis, inviter des voisins. Il va y avoir beaucoup d'appels au salut pendant cette série. Inviter quelqu'un qui s'est éloigné d'église ou éloigné des choses de Dieu. Inviter quelqu'un qui a besoin d'être reconstruit. Qui vient de vivre quelque chose qui a été démoli dans sa vie. Parce que pendant cette série de messages, d'une manière très pratique, mais très puissante, avec des principes que vous allez pouvoir vous en emparer et dire « ça, c'est pour moi », nous allons vous découvrir ensemble, à travers le livre de Néhémie, comment rebâtir notre vie personnelle, nos émotions, notre équilibre psychologique ou émotif, notre couple, nos relations interpersonnelles, quelque chose qui a été brisé, qui a été démoli, qui a besoin d'être rebâti, notre vie spirituelle, notre appel ou notre vision. Nous allons découvrir aussi des clés puissantes pour le combat spirituel. Néhémie, il y a un paradoxe qui est puissant parce qu'il est nôtre, très, très, très pertinent pour nous. C'est un livre qui est très, très terre à terre, où Néhémie a des choses même physiques. Il va aller rebâtir les murs de Jérusalem. Il y a une dimension spirituelle, mais c'est très terre à terre. C'est un homme qui a toutes sortes de considérations, toutes sortes de difficultés qui sont réelles. Il y a des problèmes et des défis dans sa propre vie. Il y a des tâches très pratiques à faire. Le livre de Jérémie, on nous parle il a des pressions de budget, il a des oppositions, il a des problèmes avec son boss, avec son patron. Des choses qui existent encore quelquefois en 2005. Il a des dimensions extrêmement terre à terre, mais en même temps, et ça c'est notre dualité à nous aussi, le livre de Néhémie nous fait découvrir toute une réalité invisible. Toute une réalité du combat spirituel, des ténèbres, qu'au-delà de nos ennemis très humains, que souvent nous sommes notre propre ennemi, souvent il y a des dimensions humaines qui sont là, qu'il y a tout un univers invisible spirituel qui a des incidences directes, qui agit directement, qui est contre lequel nous combattons. L'apôtre Paul, plus grand théologien de l'histoire, a dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des choses qui sont invisibles dans les lieux célestes. » Et à travers le livre de Néhémie, nous allons découvrir des clés puissantes pour le combat spirituel. Nous allons aussi voir un portrait extraordinaire de l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de livres, l'apôtre Paul enseigne que les livres, les personnages, les vies de l'Ancien Testament sont pour notre enseignement à nous aujourd'hui. Et il y a plusieurs personnages de l'Ancien Testament dont la vie nous donne un modèle, une typologie des différentes parties de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des personnages comme David, comme Moïse ou même comme le prophète Osée qui sont des portraits du Fils. On peut retrouver Jésus en eux. Je vais vous proposer qu'alors que nous allons regarder à Néhémie, à la vie de Néhémie, au combat de Néhémie et à l'œuvre de celui dont le nom signifie consolateur, et Jésus a dit, je vais vous envoyer mon esprit, le consolateur, le paraclète dans le grec, qui veut dire celui qui se tient avec toi, celui qui est capable de te relever, de te rebâtir, de te consoler. Nous allons découvrir et vous allez apprendre des centaines d'entre vous à expérimenter l'œuvre puissante de reconstruction qui est possible par l'œuvre du Saint-Esprit. Comment, nous allons voir ensemble comment être délivré de la honte, des insécurités, de sentiments de rejet et de jalousie qui nous dévorent et qui nous paralyse. Des chrétiens qui, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont tellement malheureux dans l'Église. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui les dévore. Ils sont continuellement, en comparaison avec d'autres, il y a toujours des choses en eux. Une insécurité, un aveuglement à l'œuvre que Christ a accompli dans leur vie. À tout ce qui est leur valeur, leur importance, de comment est-ce que s'ils pouvaient seulement être ce qu'ils sont, et faire ce que Dieu les a appelés à faire, ils seraient tellement épanouis. Mais il y a toujours quelque chose, il y a un feu dévorant en eux d'insécurité, de honte, de rejet, de jalousie qui les dévore. Et à travers le livre de Néhémie, nous allons découvrir l'antidote de Dieu. Nous allons découvrir comment être consolé, être rebâti dans ces sphères de nos vies afin de rebâtir les autres. Nous allons découvrir ce qui nous semble sans importance, mais qui est de suprême importance pour Dieu, des secrets spirituels extraordinaires. Nous allons découvrir comment réaliser nos rêves et accomplir notre vision. Néhémie est un réalisateur de rêves. Il a été inspiré par Dieu d'avoir une vision, d'avoir un rêve. Et dans sa vie, dans ses combats, dans ses échecs, dans les trois pas en avant et des fois des coups qui l'ont fait reculer d'un pas, dans les moments où il a pensé tout perdre, et dans la persévérance et dans les façons dont Dieu s'est servi de lui, il nous apprend comment réaliser, comment restaurer, ressusciter, accomplir le rêve et la vision de Dieu dans nos vies. Alors, nous allons commencer notre lecture ce matin avec Néhémie chapitre 1, les versets 1 à 4 qui apparaissent à l'écran. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Zuz dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, réchappés, qui étaient restés dans la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre ou de la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et les portes et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entends, Néhémie nous raconte ce qui lui est arrivé. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. » C'est un moment. Quelques mots-clés et contexte historique du livre de Néhémie. Le peuple avait été amené captif sous Nébuchadnezzar 150 ans auparavant. Le peuple avait été dans l'idolâtrie et leur idolâtrie avait ouvert la porte à leur ennemi qui les avait littéralement déportés, amenés en captivité loin de leur temple, loin de leur louange, loin de leur ville, loin de leurs racines. Et ils ont été amenés, déportés en Babylone. Jérusalem, la ville, avait été détruite complètement. Chacune de ses pierres avait été brûlée par le feu. L'ennemi a voulu brûler Jérusalem jusqu'au sol pour que, comme si, dans toute la haine qui était contre Jérusalem et contre l'œuvre de Dieu, l'ennemi disait, tu ne te relèveras jamais. Tu pourras jamais te relever. Tu es à terre, tu te relèveras pas de ça. Tu pourras pas être rebâti. Il y a des gens qui sont ici que secrètement, l'ennemi a parlé jour après jour, et certains d'entre vous, année après année, à votre esprit, à votre cœur, à votre âme, et dans des sphères de votre vie, vous vous êtes habitués, vous avez abdiqué, vous avez rendu les âmes, vous avez accepté le mensonge de l'ennemi qui vous a dit, dans cette sphère-là de ta vie, tu ne pourras jamais être rebâti. Tu ne pourras jamais te relever. Tu ne pourras jamais être ce qu'un jour tu as cru que Dieu voulait que tu sois. Et je veux dévoiler, je veux démasquer, je veux exposer ce mensonge de l'ennemi ce matin et vous dire, Dieu est capable de te rebâtir afin de faire de toi quelqu'un qui va rebâtir les autres. Néhémie est cet homme qui est à une grande distance de là. Et alors que Jérusalem a été jeté par terre pendant des dizaines et dizaines d'années, 100 ans auparavant, sous le roi Cyrus, on a permis à une première vague du peuple de Dieu de revenir à Jérusalem. Alors, ils reviennent, et suivez bien ceci, ils ont été en captivité, c'était terrible. Et lorsqu'ils reviennent, il y a des restes, des ruines même du temple qui sont là. Il y a un temple déchu qui est là, et tout le reste est en ruine autour. Alors, il y a une certaine restauration qui prend en place au niveau spirituel. Avant, il n'y avait plus de prière, maintenant, il y a de la prière. Avant, ils étaient loin dans l'idolâtrie, maintenant, ils vont adorer Dieu. Mais il y a un portrait saisissant, des décennies s'écoulent, sans changement, sans temps passé. Il y a un temple déchu, il y a des ruines et des tentes. Un portrait saisissant, un temple déchu au milieu des ruines et de la destruction. Suivez-moi bien, parce que c'est le portrait de milliers de chrétiens. Il y a un temple dans leur vie. Avant, ils ne connaissaient pas Dieu, maintenant ils connaissent Dieu. Avant, il n'y avait pas de louange, maintenant ils louent Dieu. Avant, il n'y avait pas de prière, maintenant il y a une certaine prière dans leur vie. Il y a un certain retour spirituel qui a pris place, mais il y a des portions entières de leur vie qui sont en ruine. Ils sont dans l'Église, mais ils sont en ruine. Si vous aviez regardé, le portrait était tellement saisissant, vous auriez vu ces gens pendant ces décennies après décennies. Ils avaient été complètement loin. Maintenant, ils reviennent à ce temple qui est déchu. Et c'est un élément de rituel qui prend place. Puis ils sont là, puis ils reviennent. Mais il y a les murs sont à terre. Néhémie entend parler de ce qui a pris place. Puis l'expression est tellement saisissante. On va en décrire chaque mot et en expliquer chaque mot dans les prochaines semaines. The walls are down. Les murs sont à terre. Dans les prochains messages, je vais vous expliquer ce que les murs veulent dire. À quel point ça voulait dire. Et ce que ça signifiait, c'est qu'il n'y a pas de protection dans leur vie. Il n'y a pas de dignité. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'établissement. Il n'y a pas d'épanouissement. On était complètement loin. Maintenant, on est à Dieu. Mais ma vie est encore en ruine. Et Dieu appelle Néhémie parce que l'intention de Dieu n'est pas seulement qu'avant vous ne connaissiez rien du tout de Dieu, vous étiez loin ou vous étiez rétrograde et maintenant vous faites partie de l'Église, vous êtes dans l'Église mais encore des sphères totales et complètes de vos vies, publiques, conjugales, spirituelles ou secrètes qui sont en ruine. Dieu dit non, je veux pas seulement te ramener, je veux rebâtir les murs afin que tu sois protégé, que tu sois épanoui, que tu sois puissant, qu'il y ait de l'ordre dans ta vie, que tu t'établisses et que tu puisses rebâtir les autres. Une personne dont les murs sont effondrés ne peut pas rebâtir les murs de d'autres personnes. Alors, Néhémie est là et il y a un portrait saisissant. C'est un portrait d'un retour. Il y a un retour, mais il n'y a pas de restauration. Il y a la parole, mais il n'y a pas de plénitude. Il y a une certaine ouverture à Dieu, mais il n'y a pas d'ordre dans leur vie. Pas d'onction. Des croyants qui aiment le Seigneur, mais il n'y a pas l'ordre de Dieu dans leur vie. Il n'y a pas la stabilité de Dieu. Il n'y a pas la force de Dieu. Il n'y a pas le rétablissement dans leur famille, dans leur vie conjugale, dans leur relation avec leurs enfants, leurs finances, leurs passions et leurs chairs. Il y a des prières, mais il n'y a pas de puissance. Ils font des pas, ils s'avancent, mais il ne semble jamais y avoir vraiment de progrès. Des petits pas, mais il n'y a pas de progrès. Il y a une certaine démarche spirituelle, mais il n'y a pas de délivrance surnaturelle. Il y a des rituels, mais il n'y a pas de réveil. Il y a une invitation perpétuelle. Dieu les invite, il veut les rebâtir, mais ils n'ont jamais d'impact sur la population autour d'eux. Il y a une miséricorde et un rituel, mais les murailles sont en ruine. Et Néhémie, lui, est à juste. Il est dans la capitale de la Perse, il est dans le palais, il a plein de responsabilités. Il y a des choses en lui qui sont démolies. Et il y a ce peuple qui est loin, à 1600 kilomètres, qui serait l'Iran moderne. Et la voix de Dieu se fait entendre, on vient de le lire, il entend parler. Et lorsqu'il entend ces choses, il est appelé à être le consolateur de Dieu, consolé par Dieu afin de consoler d'autres, rebâti par Dieu afin de rebâtir d'autres personnes. Et j'aimerais vous appeler ce matin à juste regarder le texte encore une fois. J'étais là dans ma vie parce que c'est nous. Lui était dans son palais, dans ses fonctions. Vous pourriez dire, j'étais le 24, c'est le 24? 24 aujourd'hui. 24 avril 2005. J'étais occupé, j'étais un homme d'affaires, je vendais des autos, je suis à l'école, je suis au cégep, je suis à l'université, je suis une mère de famille, je suis en affaires, je suis un travailleur, j'ai mes enfants, j'ai ma vie. J'étais là, j'étais assis, j'étais dans ce tourbillon-là. Néhémie était dans tout ce tourbillon de vie. Lorsqu'il s'informe de ce qui prend place à Jérusalem et ceux qui lui rapportent les faits lui disent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai étudié dans l'hébreu l'expression honte, ruine, l'expression malheur, douleur, honte, toutes les nuances sont tellement, tellement puissantes. C'est une expression vraiment d'humiliation totale. Je m'adresse à des adultes ce matin. Lorsque vous lisez, vous savez, on peut avoir honte, la petite fille a tombé sur la glace, elle a eu honte, mais le lendemain, c'est fini, sa vie n'a pas changé. Mais l'expression qui est trouvée ici est une expression qui est très, très brutale, qui s'exprime. Il dit, le peuple est dans un état de malheur, de condamnation. Le mot veut dire exposé outrageusement, être moqué, se sentir nu. Je suis sans ressources face à une situation. Impuissant, sans dignité, sans valeur et sans espoir. À des adultes à laquelle je m'adresse ce matin, je vous donne cette image que vous puissiez comprendre. C'est une image comme vous avez déjà vu un film sur l'Holocauste, et que vous voyez des gens qui avaient leur dignité, qui étaient des médecins, qui étaient des gens qui fonctionnaient dans la vie, qui sont dans la. Je me souviens d'images de films qu'on a vus où tout à coup tu vois ces gens-là qui s'en allaient vers les fours crématoires ou qui s'en allaient, qui passaient devant leurs tourmenteurs, et ils sont là, ils sont nus, leurs parties génitales sont découvertes, ils sont là, ils sont nus, il y a un sentiment d'horreur, de honte, d'impuissance, d'être paradé, d'avoir honte, de se sentir nu et de se sentir démuni. Et bien qu'aucun d'entre nous n'ait vécu probablement ce type aussi de honte aussi violente, c'est ça l'expression qui est ici. Néhémie dit, il y a un peuple, il y a des gens, mon peuple, il y a des gens que des portions, dans des portions de leur vie, se sentent complètement impuissants. Ils ont honte de ce qui est arrivé. Ils ont de la peine, mais ils ne savent pas comment se relever. Il y a des choses qui sont en ruine. Néhémie est à 1600 kilomètres de là. Et la Bible nous dit, lorsque j'entendis ces choses, lorsqu'il a entendu ces choses, il y a quelque chose qui l'a traversé. Il s'est dit, il faut que je sois rebâti afin d'aller rebâtir les autres. La douleur, vous savez, la douleur et la souffrance, la honte, le déchirement, la destruction des gens, ça peut être en Haïti à des milliers de kilomètres, mais ça peut être sur notre rue, à côté de chez nous, nos voisins, les gens qui fréquentent Action Nouvelle Vie, les gens de nos propres familles. Et l'Église chrétienne, et je prie que Dieu me donne onction dans ces prochaines semaines, L'Église chrétienne n'a jamais été dans l'intention de Dieu des gens qui viennent et qui sont assis dans l'Église avec un temple, mais qui ne sont jamais rebâtis eux-mêmes. Dieu désire prendre gloire à nous rebâtir. Mais l'Église chrétienne n'a jamais été dans l'intention de Dieu un peuple qui vient à l'Église perpétuellement pour 10, 20, 30 ans pour être rebâti sans jamais entendre l'appel à aller rebâtir d'autres. Nous sommes appelés à être rebâtis nous-mêmes. Et tout le long de la série, cette dualité, cette double vision. Et lorsque les mots clés du texte qu'on a lu ce matin, c'est lorsque la parole de Dieu nous dit que Néhémie a dit, « Lorsque j'entendis ces choses, les choses que Néhémie a faites, que nous allons faire ensemble dans les prochaines semaines. » Il y a une pause, il y a une prière, il y a une passion, une participation. Il y a une pause qui est là. Je me suis assis. Néhémie dit, « Je me suis assis. J'ai arrêté le tourbillon pendant un instant. » Que vous puissiez vous arrêter ce matin, que vous puissiez aller devant le Seigneur et dans les prochaines semaines en prière, d'avoir cette passion, d'avoir cette honnêteté de poser la question à vous-même et à Dieu et à dire, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui a besoin d'être rebâti? Qu'est-ce que j'ai accepté depuis des mois ou des années comme chrétien de laisser être démoli? C'est en ruine, puis je le laisse comme ça. C'est en ruine, je me suis habitué à vivre avec. C'est en ruine et ça me fait du mal. Et ma ruine, qu'elle soit morale, émotive ou spirituelle, je suis en train de la communiquer à mes enfants. Je suis année après année à manquer ce que Dieu a pour moi, à ne pas accomplir ce que Dieu avait pour moi. Je ne suis certainement pas en état de rebâtir d'autres parce que ces ruines-là viennent me voler moi-même. De vous arrêter ce matin, qu'un peuple, une génération Néhémie s'arrête, pour aller en prière devant Dieu. Puis il y a quelque chose de tellement beau, tellement émouvant. Quand j'étais en vacances et que j'étudiais ça, j'étais tellement touché par la pensée que Néhémie a été tellement bouleversé qu'il est allé, on va le discuter la prochaine semaine, mais il est allé devant son patron, devant le roi de l'époque, puis il a demandé à Dieu la faveur. Il dit, Seigneur, donne-moi la faveur lorsque je vais aller me présenter devant lui. Je demanderai au roi de me laisser partir. Puis il va demander au roi, dire au roi, laisse-moi partir, je vais aller aider mon peuple. Et Dieu va lui donner faveur. Et dans les premiers chapitres, on ne le réalise pas. Mais lorsque tu lis le livre de Néhémie, tu réalises qu'il va partir pour 12 ans. Qu'il va s'engager dans une œuvre de persévérance. C'est pas quelque chose d'une semaine ou c'est pas une émotion à l'église le dimanche matin pendant 15 minutes. C'est un cœur passionné qui dit, il faut que je sois rebâti. Afin de pouvoir rebâtir. Et cette série de messages-là est née dans mon cœur pastoral avec une douleur et un désir. Une douleur de voir dans notre christianisme moderne tellement de gens abandonnés tellement vite. Et un désir de voir un esprit d'une nouvelle génération s'élever. Une génération de bâtisseurs, de gens qui n'abandonnent pas le combat, de gens qui ont le courage de rebâtir. Nous sommes dans une société jetable, où tout est jetable, où tout est jeté, puis on en recommence avec un autre. Où on recommence, où on abandonne, où on laisse. Et je veux ce matin, il y a des gens qui sont ici, qui dans leur vie personnelle, leur vie conjugale et autres, ont vécu des drames qui sont irrémédiables. Mais quelle que soit la situation que vous avez vécue, je veux prier que Dieu nous remplisse de l'essence même de son esprit, du cœur du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous devenions un peuple qui n'acceptera pas de rester dans un état où je ne suis pas rebâti et qui n'acceptera pas d'abandonner en chemin dans mon appel à rebâtir d'autres. Un esprit de courage, de persévérance. Et ce matin, j'étais en vacances et puis j'étudiais ces textes-là et puis je réfléchissais à ça et puis je priais là-dessus. J'avais cette pensée de gens dans notre église qui sont là, de chrétiens qui sont plus âgés. Nous avons une église qui est assez jeune, mais nous avons aussi toute une génération de gens qui sont là, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, qui sont des bâtisseurs. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Néhémie a dit, moi je vais aller bâtir, dans son cas lui, il a mis 12 ans à rebâtir les murs, à restaurer. Lorsqu'il a rebâti les murs, la gloire de Dieu est descendue. Dans cette persévérance, il y a une puissance qui s'est manifestée. Mais alors que je pense, je méditais sur Néhémie, j'étais le cœur plein d'affection, plein de reconnaissance envers Dieu pour tous ces bâtisseurs. Si nous sommes ici aujourd'hui spirituellement, c'est parce que des hommes et des femmes, des gens qui sont maintenant dans la soixantaine, 70 ans, 80 ans, qui ont bâti le royaume de Dieu dans la province de Québec. Et Chantal m'a donné une lettre d'un monsieur qui disait à l'église d'ici ce matin, monsieur Desmarais, qui m'a envoyé une lettre, une diapo qu'apparaît lui avec toute sa famille, tous ses enfants qui sont là, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Il m'a écrit une lettre avant que je parte en vacances, puis je l'ai lu pendant mes vacances, j'étais tellement touché. Alors qu'il me parlait que lui, dans sa lettre, m'expliquait que ça fait 67 ans qu'il est chrétien. Il y a 60, vous devriez dire amen, église de vie ce matin. Et à travers la lettre, c'est trop personnel et touchant pour vous partager ça ce matin, mais j'étais extraordinairement encouragé. Puis il m'expliquait à quel point il se sentait béni. Puis, il m'expliquait aussi les débuts de l'œuvre chrétienne au Québec. Il m'expliquait les persécutions, m'expliquait les drames dans sa propre vie, les combats dans sa propre vie. Mais pour des centaines et centaines de ces hommes et de ces femmes, quitte d'abandonner n'était pas une option. Abandonner, lâcher, n'était pas une option. Laisser tomber Dieu, l'Église, mon appel, servir Dieu, ma famille n'est pas. Laisser tomber dans la prière. Laisser tomber lorsqu'il y a des rétrogrades dans ma famille. Laisser tomber lorsque je vis des épreuves. Laisser tomber lorsque je suis déçu. Laisser tomber lorsque autour de moi d'autres laissent tomber n'était pas une option dans leur cœur. Et alors que je priais, que je méditais sur cette génération Néhémie passée, je disais, Seigneur, élève à l'Église Nouvelle Vie dans la 15 ans, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, élève en nous un cœur de bâtisseurs qui vont refuser de laisser des choses pas bâties en nous afin d'être des bâtisseurs. Quelqu'un devrait dire amen. J'aimerais que vous puissiez applaudir avec moi cette génération un instant. Juste leur demander, il y en a des dizaines d'autres. J'ai fait ça, c'est pas moi, c'est des amis sur le staff qui m'ont aidé à appeler ces gens-là à 24 heures d'avis, qui ont accepté de venir. Juste leur demander de s'approcher. J'ai nommé des noms de personnes qui ont 65 ans et plus, des bâtisseurs, pour plusieurs raisons. Une, pour que vous puissiez voir devant vous ces gens, qu'on puisse, en tant qu'Église, juste un moment ce matin dans le message, pour les apprécier. Pas seulement eux, mais qui représentent ceux qui sont là. Il y a, dans notre génération moderne, dans le monde extérieur, il y a un oubli et un mépris de la noblesse, de l'importance et de la valeur de ces bâtisseurs. Il y a toute une jeune génération, je ne vais pas faire tout le commentaire social là-dessus, des milliers et des milliers de personnes âgées qui sont oubliées dans des maisons quelque part, parce qu'il y a une génération, lorsque le 2 été, il y a 10 000, trois fois le 11 septembre, 10 000 personnes âgées qui sont mortes en France dans la canicule. J'étais avec des amis français qui me disaient, c'est effrayant, ça à peine si ça a passé dans les journaux. Ça a passé comme un éclair. C'est comme si tout le pays au complet ne veut pas en entendre parler, ne veut pas reconnaître, ne veut pas entendre parler. Je veux m'arrêter ce matin et dire, si l'Église Nouvelle Vie est là, si nous sommes là, si une église évangélique au Québec et dans la francophonie, c'est parce qu'il y a des bâtisseurs, il y a des hommes et des femmes, des Néhémies qui se sont levés. J'aimerais ce matin qu'on les honore. Je vais les inviter à s'approcher. Madame Fleurette Baudry, M. Félix Bédard, Jacques et Yolande Bergeron, Roger, on va les applaudir tous ensemble alors qu'on s'approche. Roger et Pierrette Bolduc, Claudette Brodeur, Combe-Cyr, Henri et Ginette Drisdale, venez autour de moi. Berthier et Lise Dumont, Gaston Francis, Solange Fréchette, Paulette Godette, Adrien et Irène Gosselin, Yolande Grégoire, Roland et Claire Guérard, Monique Lépine, Jacques-Daniel Leroy, Jean-Paul et Monique Pichette, Roland Sigouin, Camillien et Rachel Vachon, Gaston et Pierrette Vallée. Est-ce qu'on peut honorer la génération Néhémie? Est-ce qu'on peut honorer les bâtisseurs de l'Église chrétienne québécoise? Alléluia! On peut honorer des hommes et des femmes qui ont prié, qui ont donné, qui ont pardonné, qui ont bâti, qui ont prêché, qui ont témoigné, qui ont évangélisé. Alléluia! Pendant qu'ils sont là quelques instants, je pourrais souligner chacun d'entre eux, mais restez là avec nous quelques instants. Juste souligner des personnes qui sont là. Monsieur Jacques Bergeron, son épouse. C'était juste lorsque je mentionne, non, juste faire un petit, que les gens puissent vous voir. Monsieur Jacques Bergeron, qui a bâti des églises à différents endroits au Québec, qui encore aujourd'hui, il travaille ici dans l'église manuellement avec ses mains. Homme de prière, homme de foi, des enfants dans l'église, mais qui, un constructeur qui continue qui épuise et brûle les jeunes travailleurs de 20-25 ans qui vont passer des journées avec lui. Roger et Pierrette Bolduc, depuis des années, depuis le début de Nouvelle Vie, jeûne, prière, soutien, encore œuvrer dans tous les départements possibles de l'Église et maintenant œuvre à chaque semaine auprès des itinérants. Je souligne, chacun d'entre eux est précieux, qui est là, juste quelques-uns. Monsieur Berthier Dumont, qui après avoir pris sa retraite, d'un travail très exigeant dans le monde séculier, a donné de longues années à Action Nouvelle Vie, supervisant tous les entrepôts, tout le travail, a monté toute une équipe là-bas maintenant qui marche dans son sillon. Madame Fréchette Solange, qui a 70, 75 ans et plus et qui enseigne encore à chaque semaine ici. Bon, est-ce que j'avais le droit de le dire? Madame Godette, juste que les gens sachent qui vous êtes. Madame Godette qui est là, Paulette qui est là, elle veut pas lever sa main, mais Madame Godette, qui encore aujourd'hui travaille dans Action Nouvelle Vie et qui est une travailleuse infatigable pour l'œuvre de Dieu. Monsieur et Madame Gosselin, Monsieur Gosselin à chaque semaine qui va de l'autre côté nettoyer les frigidaires, nettoyer dans Action Nouvelle Vie. Madame Gosselin qui est encore ici à l'accueil. Monsieur et Madame Guérard qui sont là, Roland. Et Claire, Madame Guérard, Desmarais Guérard qui a enseigné l'école du dimanche pendant plus de 30 ans. Des enfants partout au Québec qui ont grandi alors qu'elle les a enseignés. Monsieur et Madame Vallée, Gaston et Pierrette qui sont encore là à l'accueil fidèlement. J'aimerais que l'on puisse être inspiré et honorer cette génération. Qu'on peut honorer la génération Néhémie. Merci beaucoup. Je vais les inviter à retourner à leur place sous vos applaudissements ce matin, alors qu'ils vont à leur place, qu'on puisse recevoir une inspiration de la génération Néhémie. Néhémie, le livre de Néhémie commence d'une manière particulière. Pendant qu'ils vont regagner leur place, je vais faire le tournant vers la fin du message. Néhémie nous raconte un événement qui lui est arrivé, des choses qu'il a vécues. J'étais dans mon palais, voici ce qui a pris place, voici ce que j'ai vécu, voici ce à quoi j'étais confronté. Il raconte, il dit, j'étais assis, j'ai fait une pause, je me suis arrêté, j'ai prié. Il a vécu des choses, il a vécu des événements qui ont fait de lui un homme qui a pris une décision. Il a pris la décision d'être rebâti afin de rebâtir. En ce printemps 2005, ce soir, nous allons avoir notre réunion d'affaires. J'espère, je prie vraiment de tout mon cœur que vous allez prendre à cœur votre responsabilité, que vous allez être présent. Mais alors que ce soir encore, nous allons regarder la dernière année, regarder tout ce que Dieu fait à travers nous, je veux faire quelque chose ce matin qui est particulier. Je veux faire un peu comme Néhémie. Je veux, pour les centaines de nouveaux, pour les plus de 3, 4, 5 qui sont joints à l'Église dans la dernière année, et pour ceux qui sont là chaque semaine, je veux simplement vous partager comme Néhémie a fait. Il y a 2500 ans, comme Néhémie a fait. Je vais vous partager ce matin les expériences que nous avons vécues qui ont fait que nous voulons, que nous sommes consumés par une vision d'être bâtis par Dieu et d'être des bâtisseurs. Des choses qui ont pris place dans nos vies à nous, des choses qui nous sont arrivées, qui ont changé notre vision d'Église et qui ont fait que nous voulons bâtir cette Église Nouvelle Vie, une Église pour aujourd'hui. Que nous refusons complètement une église où les gens ne sont pas rebâtis. C'est ça qui inspire et qui motive tout ce que nous faisons. S'il y a toute l'emphase et le travail depuis des années à tous les soins, pasteur pasteur Denis Morissette, toute une équipe pour essayer, semaine après semaine, des centaines de rencontres de counseling, c'est qu'on ne peut pas accepter de juste réunir les gens chaque semaine qui retournent chez eux et les laisser démolis. Nous voulons rebâtir des êtres humains afin qu'ils puissent rebâtir d'autres. Alors, je vais simplement vous partager quelques événements qui ont pris place sous forme de témoignage, comme Néhémie a fait, en message d'introduction, pour que vous compreniez un peu l'essence de cette poursuite d'être et de devenir une génération Néhémie. Lorsque j'ai commencé mes études bibliques, entre deux étés, après ma première session, les étés, j'ai fait des stages pastoraux. Mon premier stage pastoral dans une église, je me suis retrouvé, c'était une bonne église pentecôtisante, on avait une super bonne doctrine, puis il y avait de la louange, puis de l'enthousiasme, puis c'était bien. Moi, j'avais fait une année complète de théologie, de théorie, alors j'avais tous mes messages. Et pour moi, à ce moment-là, le ministère, c'est la prédication, c'est tout ça. Et j'ai commencé à prêcher l'été, le pasteur était en vacances, c'est moi qui remplaçais tout ça. Puis un des premiers messages que j'ai fait cet été-là, et là on parle de 1980-81, premier message que j'ai fait, il y a un couple qui a avancé le Seigneur, qui a accepté le Seigneur, qui s'est avancé, puis j'étais touché. Un des premiers messages que j'ai fait, c'était les deux seuls nouveaux dans l'église, ils sont avancés, c'est quelqu'un de leur famille qu'ils avaient invité. Et lui s'appelait Marcel. Et c'était un toxicomane très grave, très sérieux. Puis à la limite, il vivait dans des appartements, dans des squats, dans des appartements illégaux, des places abandonnées. Puis lorsqu'il est venu la première fois, il était seul, il a accepté le Seigneur. Et à la prochaine réunion, il est arrivé avec sa blonde, avec la fille avec qui il restait, puis il y avait un enfant ensemble. Les deux étaient sales, les deux sentaient pas bon, les deux se droguaient. Et ils ont avancé en avant, puis lui a accepté le Seigneur. Et puis après, j'avais pris un cours d'évangélisation personnelle au collège biblique où on nous apprenait bien que même lorsque quelqu'un lève sa main, il faut que tu parles avec elle pour voir si c'est vraiment bien compris. Et j'avais pris du temps avec eux et je voyais comment est-ce qu'ils comprenaient le salut. Ils m'avaient expliqué en ces mots, j'ai péché, puis je ne pourrais jamais me sortir, je peux jamais. Le poids de mon péché était irréparable et Dieu a pris, Jésus a pris mon péché sur lui, il est ressuscité. Puis à cause qu'il est ressuscité, moi je peux ressusciter aussi. Puis maintenant, je suis pardonné pour l'éternité, puis il avait tellement compris le salut. Amène sa blonde avec qui il était, la mère de l'enfant qu'ils avaient ensemble. Et elle s'avance et est touchée, accepte le Seigneur. Et pendant 3 semaines, 1 mois, j'ai vécu quelque chose qui au début était bénissant, puis après ça a commencé à me déstabiliser. Parce qu'à chaque fois, il venait à toutes les réunions, dimanche matin, dimanche soir, mardi, mercredi, et à chaque fois que je faisais un appel, il se réavançait. Et il s'avançait, puis à un moment donné, vers la 4e ou 5e ou 6e fois qu'ils sont réavancés, la réunion finissait, puis à un moment donné, Marcel, il dit, Claude, peux-tu te faire 2 minutes? Puis je m'en vais voir, la réunion était finie, puis il me dit, qu'est-ce que je fais là, maintenant? What do I do now? Parce que si tu veux dire, moi je vis dans la rue, on gèle, son ami fait de la prostitution. Qu'est-ce que je fais maintenant? What do I do now? Puis à ce moment-là, la réalisation m'a tombé dessus comme une tonne de briques. Dans l'église de l'époque, la seule chose que je pouvais lui dire, c'est reviens la semaine prochaine. Il est venu 3-4 autres semaines, puis on a reçu une note. Marcel s'est suicidé. Et il a laissé une note. Super gentille. À Claude, mon ami, merci pour tout ce que tu as fait. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour moi. Et à ce moment-là, la première fois, la pensée dans mon cœur, il faut que l'Église fasse plus. Il faut que l'Église fasse plus. Il faut que nous fassions plus. Néhémie a dit, je me suis arrêté, j'ai prié, j'ai pleuré, puis une résolution qui a monté en moi. À ce moment-là, en 1985, pendant des semaines et des mois, j'ai continué mon ministère, continué à faire, j'ai pas jugé, critiqué personne. Il y a quelque chose qui a commencé dans mon cœur. Il faut que l'Église fasse plus. Quelques années plus tard, on a gradué du collège biblique, et le pasteur Marc Lecomte et moi, on est sorti du collège biblique et le pasteur Sam nous a engagés. Moi, j'étais évangéliste attaché à l'Église et le pasteur Marc était pasteur de jeunesse. Et ça faisait quelques semaines qu'on venait de graduer. Là, c'est 3 ans de cours biblique, 3 ans de théologie, 3 ans de prédication, 3 ans de... Pour nous, le ministère, c'était tellement dans nos têtes relié à l'Église. C'est la louange, l'adoration, c'est les réunions, c'est la puissance, c'est la prière, c'est tout ça. Et on avait hâte que le pasteur Sam nous envoie faire du ministère. On voulait être dans la vraie affaire. Et pasteur Sam, après quelques... C'était les premiers jours et semaines de notre ministère. Il dit, les gars, j'ai une tâche pastorale pour vous autres. Et moi, je me suis dit, mais il doit avoir une convention, aller prêcher à quelque part. Il veut que j'aille prêcher, ça va être super. Et là, il me dit, il y a une femme de l'église, que ça, c'est dans sa famille proche, je pense que c'était sa sœur ou sa belle-sœur. Il y a un monsieur qui s'est enlevé la vie. Puis c'est très dramatique. Le monsieur s'est fait sauter la tête. Et l'appartement est tout sale. Puis ça prend quelqu'un pour aller le nettoyer. Toi puis Marc, vous allez y aller. Première tâche pastorale. On est rentré là et l'histoire, lorsqu'on est arrivé, il y avait des policiers, tout ça, puis la madame était là, on nous a permis de rentrer. Puis tout le monde est parti, puis on est resté, c'était assez baroque, assez spécial, Marc et moi tout seuls dans la place. Et on est là, puis on a nos galons de peinture. Et on a su les détails, c'est que le monsieur avait vécu un divorce déchirant et difficile. Et la dame a gagné la garde des enfants et a décidé qu'elle déménageait à Vancouver. Puis il ne verra plus ses enfants. Et le gars est dans l'alcool jusqu'au cou, etc., etc. Et tant qu'on est arrivé dans la pièce, parce que Marc vous le raconterait exactement pareil, il y avait tous les papiers. Papiers de divorce, album de famille, photos, avec du sang dessus. Puis lui, il regardait ça, je sais pas jusqu'à quoi, mais ils disent que c'est vers 3 heures du matin qu'il a pris la carabine et s'est fait sauter à la tête avec un 12. Son fils était là, dans l'autre pièce. Il s'est approché, il s'est assis là. Puis au matin, vers 8h30, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont trouvé le fils qui était là, puis qui regardait son père, qui s'était fait éclater la cervelle. Puis alors qu'on était là, puis je ne veux pas être graphique et je ne veux pas vous dégoûter, mais qu'on a gratté les morceaux de cervelet puis tout ça du mur, puis qu'on peinturait par-dessus, puis qu'après ça, on a tiré un tapis, il y avait un sous-tapis, puis la tache de sang avait taché le bois franc en dessous, traversé les deux tapis. J'étais debout dans cette salle, cette pièce-là, puis j'ai jamais été aussi, à ce moment-là, j'avais jamais été aussi frappé avec la réalité que c'est ça le ministère. Que non seulement il faut que l'Église, il faut qu'on fasse plus, il faut que l'Église sorte là où le vrai monde souffre. On peut faire nos sermons, nos affaires tant qu'on veut, mais pendant qu'on faisait, on chantait nos chants, puis c'était dimanche-là, moi j'avais trouvé que j'avais fait un sermon extraordinaire puis que mes chants avaient été vraiment bien. Mais il y a un gars dehors, lui, qui est dans une autre place dans sa vie. Il y a un gun dans la gorge, puis à moins que quelqu'un lui donne un vrai espoir, il va mourir là. Puis je ne veux pas mysticiser les choses, mais j'étais avec Pasteur Mark dans cette pièce-là, puis on a prié, on sentait la mort. On sentait la noirceur du combat spirituel. Puis cette réalisation-là, cette pensée-là, il faut que l'Église fasse plus. Cette pensée-là, il faut que l'Église sorte où les gens sont. C'est pas un hasard puis une idée qu'on a eu de même, qu'il y a une action Nouvelle Vie qui coûte des centaines de milliers de dollars par année et à laquelle maintenant 8000 personnes dehors reçoivent de l'aide. C'est qu'on croit que l'Église n'est pas l'Église Néhémie, qu'elle n'est pas la génération Néhémie, c'est les recroquevillés sur l'humain. Elle doit être rebâtie afin d'aller rebâtir ceux qui ne connaissent même pas Dieu encore. Quelques années plus tard, privilège et honneur d'avoir le première invitation pour aller prêcher une conférence de pasteur. C'était la première fois de ma vie. J'étais très nerveux. Je m'étais préparé toute la semaine. J'étais vraiment... C'était un privilège. Puis c'est encore un privilège aujourd'hui, maintenant. Au fil des années, c'est des milliers de pasteurs et leaders à laquelle je me suis adressé face à face. Et là, on se retrouve et c'est la première fois. Puis c'était à Montréal. Puis il faisait très, très, très froid. C'était l'hiver, janvier, février. Puis moins 30, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on est arrivé, vous savez le genre de froid, là, que tu cours de ton auto à la porte, ça te coupe en morceaux tellement qu'il fait froid. Puis quand je suis arrivé à la porte, j'ai sonné, l'église, la porte était barrée, puis j'ai sonné, la porte s'est ouverte, et il y avait un placier qui était là, un monsieur de la sécurité qui était là, qui c'est un bénévole, j'imagine, quelqu'un qui servait le Seigneur, qui servait l'église de cette façon-là. Et je sais pas, peut-être que tout le reste de sa vie était correct, mais ce matin-là, il était vraiment, vraiment rébarbatif. Il était bête. Il a ouvert la porte, il dit oui. Je dis, bonjour, je suis le pasteur Woods, je m'en viens pour la conférence de pasteurs. OK, d'accord, vous pouvez entrer. Et par-dessus son épaule, je voyais tous les pasteurs qui étaient là. Il y avait du café, il y avait des beignes, tout ça, rien, tout est correct. Je m'en allais prêcher, faire ma convention de pasteur. Pendant que je m'apprête à rentrer, la minute que la porte s'est ouverte, il y avait une petite madame qui était là, une madame latino. Je toujours me souvenir de son visage, avec ses deux enfants, sont habillés comme en printemps. Des petites bottes d'été, petits coupe-vent. Puis elle a pris l'opportunité, elle attendait sur le bord de la porte, puis elle a essayé de rentrer dans l'église, puis elle parlait espagnol, puis anglais, puis elle barigounait un petit peu de français. Puis ce qu'elle a, puis là, je vais toujours me souvenir, lorsqu'elle pensait, elle était tout petite, puis lorsqu'elle pensait, elle était là, elle a essayé de se faufiler, puis le monsieur a bloqué la porte. Puis j'ai vu son visage, je vais toujours me souvenir des gelures blanches, son visage brun. Puis de voir des petites bottes bleues d'été, puis il n'y a pas de mitaine, il n'y a pas de foulard, puis ils vont crever, là. Puis elle a dit, aidez-moi quelqu'un, est-ce quelqu'un qui pourra, est-ce quelqu'un qui peut m'aider, est-ce quelqu'un qui peut, dites-moi où aller, on m'a mis dehors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que est arrivé du pays, son mari ou la personne qui l'a accueilli la battait, puis là, il l'a mis dehors, parce qu'elle sait pas où aller, elle sait pas ce que sont les shelters, elle est dehors, elle est dans la rue. Elle sait pas comment aller voir le bien-être social, elle sait pas, etc. Et le monsieur qui était là, et là, moi, c'était un moment, c'est un moment qui m'a marqué, 25 ans plus tard, je vous en parle. J'étais là, puis je regardais par-dessus l'épaule du gars, puis je voyais toute la réunion de pasteurs. On va se réunir entre nous autres, puis là, on va parler des bonnes affaires du royaume de Dieu. Puis là, je voyais la madame, puis je voyais le gars qui était bête comme ses pieds. J'avais besoin de comprendre, moi, je viens de Saint-Michel. Je n'ai pas été né là-dedans, moi. Moi, j'ai été enseigné au début, puis je crois ça encore aujourd'hui, que les chrétiens devraient être gentils. Là, je m'attendais à amen à cette grande déclaration théologique. Trop tard, s'il faut le demander, ça compte pas. Puis essayait de plaider que le gars, écoute, on peut-tu faire quelque chose, on peut-tu appeler un. Puis à un moment donné, lui, il a eu une idée pour prouver à madame, pour réveiller à madame, pour essayer qu'elle laisse tranquille. Il a eu une idée, il a trouvé un argument massu. Il dit, madame, listen to me, écoutez-moi. Puis il m'a pris son visage dans ses mains, écoutez-moi. Puis j'ai vu la face de la femme lorsqu'elle dit ça, comme, il va-tu me dire quelque chose? Il dit, madame, écoutez-moi. Puis là, il avait son argument, c'était tellement clair dans sa tête, il a quasiment dit avec un sourire. Il a pas souri, mais il a dit de cette façon. Il dit, madame, écoutez-moi, là. On peut rien faire pour vous. On est une église. Est-ce que vous comprenez la mentalité? Ce jour-là, obsédé pendant des semaines après, des mois après, non seulement il faut qu'on fasse plus, non seulement il faut qu'on sorte dehors, mais il faut littéralement réinventer l'église. Il faut la rebâtir. Écoutez-moi un instant. Il n'y a rien à changer à ce message qui est parfait pour tous les âges. Mais il faut rebâtir l'Église et qu'elle soit ravivée avec la vision que nous sommes ici afin d'être rebâtie, afin d'aller rebâtir ceux qui souffrent. Quelqu'un devrait dire amen. Génération Néhémie. Alors que les musiciens s'approchent et que je termine, témoignage que je vous donnerai la semaine prochaine. J'ai un témoignage de préparé que je vais vous donner la semaine prochaine. Je vais vous amener à tout récemment. Néhémie a dit, j'ai vécu ces événements-là, puis ces événements-là ont fait que je me suis engagé. Je suis engagé à être rebâti afin de rebâtir. Il y a quelques années, un événement qui a pris place, qui s'est conclu dans les derniers mois. Plusieurs années, un soir, à 3 heures du matin, ou 2 heures du matin, 3 heures, j'étais couché à côté de Chantal, et puis le téléphone a sonné. Puis quand tu es un pasteur et que le téléphone sonne dans la nuit, c'est jamais le fun. T'as toujours peur. C'est rare, c'est toujours quelque chose qui va t'inquiéter. Une mauvaise nouvelle. Et au téléphone, ils disent, bonjour, vous êtes M. Hood, pasteur Hood, oui. C'est la police de Montréal. Il y a une jeune femme qui s'est barricadée dans un bâtiment, en dessous d'un escalier. Elle s'est couverte de gaz et de combustible inflammable. Elle a des espèces de fusées de feu d'artifice. Elle a plein de papiers autour d'elle, puis elle menace de se mettre en feu. Puis elle a un couteau, puis elle se coupe, elle se mutile. Tant que quelqu'un s'approche, elle a blessé un policier. Puis on essaie depuis des heures de la sortir de là. On a mis un cordon partout autour. Les pompiers sont partout autour. On a évacué le bâtiment. Puis on n'est pas capable de la faire avancer. Elle crie, puis elle fait juste se mutiler de plus en plus. Puis tout à coup, elle a sorti une petite carte toute fripée avec le nom du pasteur Claude Hood, puis elle a dit, si vous voulez que quelqu'un me parle, moi, parle à lui. Puis c'était une femme qui était déjà venue à l'église, puis une femme qu'on avait essayé d'aider, puis une femme qui était psychotique, puis qu'à chaque fois, on remet dans la rue. Je ne fais pas un constat sur la société, je vous dis juste qu'à chaque fois, elle sortait, puis elle terminait dans la rue avec toutes ses pilules, puis tout ça. Psychiatrie. Je me suis rendu là-bas, et Chantal priait pour moi, puis ça, puis on a pris quelques personnes pour prier. Puis quand je suis arrivé, c'était vraiment saisissant parce qu'on est arrivé à Montréal, cordon de policiers autour, tout ça, puis il y avait un barrage. Puis on dit, bon, oui, bon, je suis monsieur Hood, on m'a appelé, oui, parfait, c'est Hood, pas laisser les passer. J'ai arrivé là-bas. Et quand je suis arrivé, il y avait toute la scène, les pompiers, toute l'affaire. Puis j'entendais, ils m'ont mis sur le bord du mur, puis là, j'entendais le psychologue qui essayait de dealer avec elle, il n'y avait rien à faire, puis elle avançait pas. Fait que j'ai dit, écoutez, laissez-moi aller parler, c'est pour ça qu'on m'avait appelé. Mais là, entre-temps, ils étaient parlé entre eux, puis on dit, on peut pas mettre un civil dans cette situation-là, puis ça le coupe, lui, il va nous actionner, puis, etc., etc. Fait que là, je les ai convaincus, laissez-moi y parler. Si je parle, ils disaient, ben, parlez à travers du mur. Ça marche pas, je veux la voir, je veux y parler. Alors, finalement, ils ont accepté, ils m'ont mis comme une grosse veste de genre antibale dessus, puis un harnais. Puis là, ils m'ont mis dedans, puis il y avait deux gars qui étaient prêts à me tirer à sa c'était baroque, là. Tout à coup, la fille avait apparaître, le pasteur flottant avec grosse ceinture, harnais. Je vais toujours me souvenir d'elle parce qu'elle est là, ça puait le gaz, tout ça, il y avait tout le papier autour d'elle, puis ça saignait, puis le gaz, puis le sang qui se mélangeait, puis était complètement perdu. Puis par la grâce de Dieu, en quelques minutes, elle m'a mis le couteau, puis on l'a sorti d'elle. Mais écoutez-moi bien. La vie chrétienne, là, le combat Néhémie, c'est pas juste des histoires d'Hollywood qui finissent bien. Il y a un courage nécessaire. Néhémie, il a mis 12 ans à rebâtir, et il a eu toutes les oppositions du monde possible. C'est pas juste là une histoire qui finit à l'heure, à midi moins 10, avec ils vécurent heureux. Non, c'est une vraie guerre, c'est un vrai combat. Ça prend des gens qui y croient puis qui s'y engagent puis qui sont persévérants. La sortie de là, puis le policier me dit, vous devriez me donner votre carte, on aura besoin de vous souvent. J'ai dit non, c'est pas ça qui est mon appel. À la maison, je me suis changé, pris ma douche finalement à 7h30, 8h, j'étais au bureau. Puis quand le téléphone les lignes se sont ouvertes vers 9h, la secrétaire m'appelle, puis elle me dit, il y a un appel pour vous, c'est elle s'appelait Nathalie. Je dis, comment c'est Nathalie, elle m'appelle, je dis, allô Nathalie. Parce que tant qu'on l'a sorti de là, ils l'ont amené en psychiatrie. Puis elle me dit, allô, je dis, ouais, tu m'appelles de la psychiatrie. Elle dit, non, elle dit, je t'appelle du Parc La Fontaine. Comment tu m'appelles du Parc La Fontaine? Ils ont donné une autre prescription qu'ils ont changé sur le coup pour qu'elle puisse avoir les pilules dans les mains, puis ils l'ont mis dans la rue. Lors de nos dernières vacances, l'été dernier, on est revenu, Chantal et moi, puis on a pris un taxi pour s'en venir. Puis t'es heureux, t'es joyeux, t'es en vacances. Puis tant qu'on est rentré dans le taxi, les nouvelles jouaient. Puis on a annoncé aux nouvelles que Nathalie avait tué sa mère. Elle a assassiné sa mère à coups de couteau. Puis à la radio, son frère a passé à la radio, puis il a dit, ma sœur n'aurait jamais dû être dehors. Elle n'aurait jamais dû être dans la rue. Je pourrais vous lire aujourd'hui, puis je ne veux pas le faire, parce que j'ai une pudeur dans ces choses-là. Je ne sais pas si c'est le même que par la radio, mais de la famille. On a reçu une carte dans les mois qui ont suivi, disant « Merci à vous autres, il y a juste vous autres, les chrétiens, qui ont aidé notre sœur. » Et dans cet événement-là, il y a cette révélation que ça prend du courage et de la détermination. Ce n'est pas juste un film d'Hollywood, c'est une guerre, puis on perd du monde. Et on a des échecs, puis on pleure, puis tu te sens des fois tellement impuissant, puis on devrait faire plus. Hey, bien-aimé, je vous le dis, puis si vous n'êtes pas content, je vous demande pardon. S'il y a 780 familles de l'Église qui ne sont pas prêtes à donner 1 $ par jour, c'est difficile de croire qu'on va faire une grande différence dans la société à long terme. Je ne veux pas vous condamner ce matin, je veux juste vous dire, ça c'est la réalité, là c'est la vie, là. C'est la vraie affaire. Néhémie, la génération Néhémie prend une certaine détermination, un courage de bâtir, de donner, de sacrifier. Chacun disant, Seigneur, il faut que tu me rebâtisses afin que je puisse être utilisé avec tous les talents que j'ai pour rebâtir les autres. Je vais terminer avec ceci. Non seulement est-ce qu'il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on sorte de l'Église, il faut rebâtir l'Église. Il faut du courage et de la détermination. Je vais terminer avec ceci. Il faut que l'esprit de la génération Néhémie se répande dans l'Assemblée. Ça ne peut pas être quelques personnes. Il faut que chaque personne sorte avec une farouche détermination. Moi, je vais être rebâti par Dieu parce que moi, j'ai des choses à contribuer au royaume de Dieu. Je ne parle pas seulement d'argent, je parle de vos dons, vos talents, vos capacités, vos rêves, vos visions. Cet rêve, cet accomplissement de la génération Néhémie s'accomplit seulement lorsque la vision se remplit. Néhémie, vous allez le voir dans les prochaines semaines, c'est fascinant. J'espère que vous ne manquerez pas un dimanche matin les prochaines semaines. Néhémie a été saisi par Dieu, mais après ça, il est allé rassembler des gens pour commencer à partager son cœur, puis l'esprit s'est répandu. De gens qui disent, même lorsque les choses sont terribles puis qu'on pleure, même lorsqu'il y a de l'horreur autour de nous, l'horreur devient même une source de motivation pour dire, nous autres, on va bâtir quelque chose. Quelques années, on a fait Groupe Action Nouvelle Vie, puis l'Église les a appuyés. Dans le temps qu'on était, ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans de ça. On était dans les autres bâtiments. On a fait le plus gros pique-nique peut-être qu'il y a eu dans l'histoire de la ville de Longueuil. On a invité des centaines, je pense, des milliers de personnes démunies à qui on a donné un bracelet pour ce qu'ils puissent avoir tout gratuit cette journée-là. Il y avait des structures gonflables, il y avait des tanks où est-ce que les gens allaient dessus, tu lançais une balle, puis les enfants faisaient tomber leurs parents dans l'eau. C'était génial. Le maire de la ville était là, Maman Dion était là, des personnalités, il y avait des hot dogs pour tout le monde, il y avait un party, il y avait une structure, il y avait une montgolfière, il y avait toutes sortes de jeux, c'était wow! Journée de joie. Moi, des journées comme ça, là, j'étais hyperventilé, la face dans un sac tellement j'étais heureux, hyperventilé. I love it. À un moment donné, je passe à côté de quelques-unes des madames d'Action Nouvelle Vie, puis je vois qu'elle, elle pleure. Qu'est-ce que les filles, qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique, elle me raconte un témoignage d'une madame qui s'appelle Patricia, qui est venue dans les semaines précédentes, puis qui était abusée physiquement par son mari, percevait de l'aide, de son nouvelle vie, de la nourriture, de l'aide, des soins, toutes sortes de choses. Il y a même des gens d'église qui étaient allés avec elle à l'hôpital. Elle avait des hémorragies internes, elle avait été abusée. Puis là, il m'expliquait qu'il venait d'apprendre que la dernière fois qu'elle est sortie, son mari l'a battu violemment, il l'a sodomisé avec un balai, puis la madame est décédée. J'étais là, puis je regardais ces madames-là. J'avais pique-nique, la joie partout autour, puis je regardais ces filles-là. Puis une des filles qui, aujourd'hui, est à temps plein avec son nouvelle vie, qui a dit, « Pleurais. » Elle a dit, « Un jour, là, on va bâtir une maison pour les femmes, puis on va mettre une plaque à la mémoire de Patricia. » That's the spirit. Ça, c'est l'esprit de la génération Néhémie. C'est pas l'esprit. Le monde est tellement sale. Oh, c'est terrible. On va se recroqueviller sur nous-mêmes, puis on va continuer à juste être bénis entre nous. Puis un jour, le réveil va venir, puis ils vont tous se guérir tout seuls. Non, non. L'esprit de la génération Néhémie, la Bible nous dit, vous allez voir la semaine prochaine, que Néhémie est allé voir les murs. Il n'a pas eu peur d'aller voir, c'est pas beau. Moi aussi, je fais, oh! Mais il est allé voir les murs, il est allé voir la désolation. Puis après ça, il est allé répandre l'esprit. Il a dit, maintenant, la bonne main de Dieu est avec nous. Levons-nous ensemble, les bâtissons. J'aimerais déclarer aujourd'hui, j'aimerais prier, Seigneur, répands maintenant sur ce lieu un esprit de la génération Néhémie où nous n'accepterons pas d'avoir des sphères de nos vies qui sont démolies. Par ta grâce, on va s'engager à être rebâti et chaque défaite va juste nous souder. Chaque histoire d'horreur va juste nous galvaniser à faire encore plus pour bâtir ceux que tu nous confies dans le nom de Jésus et ceux qui y croient et qui le veulent en cette fin de message. Je voulais vous dire un dernier amen ce matin si vous voulez faire partie de la génération Néhémie.
j'aimerais qu'on mette la dernière diapo sur l'écran. Le livre de Néhémie commence avec ces mots. Parole de Néhémie, puis donne la date, le jour et l'heure. Alors, je vais faire un appel ce matin. Alors qu'à nos places ensemble, tout ce que je veux, Seigneur, c'est de t'obéir. Que vous puissiez dire, me voici ce matin, Seigneur. Parole de Claude. Engagement de Claude, engagement de Denis, engagement de Chantal, engagement de Réal, engagement de Serge, engagement d'Alain, engagement de Manon, engagement de Bob, votre nom à vous, engagement de Philippe Beria, engagement de moi, 24 avril 2005. Je me suis arrêté. Je vais prier. Je vais aller vers Dieu dans les prochaines semaines. Et j'ai décidé d'être rebâti par Dieu, afin, ensemble, que nous puissions rebâtir. Pendant que vous penchez vos têtes pendant un instant, c'est un appel à deux volets. Un appel à dire, Seigneur, qu'est-ce qui doit être rebâti en moi? Accepter de reconnaître ce qui doit être rebâti en nous et refuser de continuer à vivre avec des ruines dans ma vie. C'est un appel à dire, Seigneur, alors que tu vas me rebâtir, moi, je refuse aussi un christianisme où je ne donne pas tout ce que j'ai de moi-même, de mes talents, de mes capacités, de mes dons, de mes prières, de mon service, de mon ministère, afin de rebâtir d'autres personnes. Et certains vont œuvrer à rebâtir les enfants, et d'autres vont œuvrer à rebâtir dans les médias, et d'autres vont œuvrer à rebâtir dans l'évangélisation, ou dans la prière, ou dans Action Nouvelle Vie, ou dans les soins pastoraux, ou dans Cœur Nouvelle Vie, ou dans les hommes, les femmes, les couples, les jeunes, et pas que jeunesse. Action Nouvelle Vie. Ici et en Haïti, en Afrique et où Dieu vous conduira, auprès des itinérants de Montréal et auprès des jeunes ici à Longueuil. J'aimerais vous inviter à répondre, si vous le voulez, de cette façon. Si vous êtes ici ce matin et que vous dites, Seigneur, je te demande, moi, parole de moi aujourd'hui, vœux, engagement de moi aujourd'hui, 24 avril 2005, je veux te demander, Seigneur, de rebâtir ma vie. Je veux te donner cette portion qui a besoin d'être rebâti. Dans les prochaines semaines, je vais apprendre comment tu vas me rebâtir. Si c'est votre désir là où vous êtes, vous refusez d'avoir des sphères de ruine en vous, j'aimerais vous demander de lever une main devant Dieu, comme si vous étiez en adoration. Juste la laisser lever une seconde. Et avec l'autre main, si vous êtes prêt à dire, c'est comme un appel en deux sphères, les deux mains qui se lèvent, de dire, d'une main, je déclare, je veux être rebâti. Mais si vous êtes ici ce matin et vous dites, moi, ce 24 avril 2005, je veux entrer, je veux prendre ma place dans la génération Néhémie afin de rebâtir les autres. J'aimerais que vous leviez votre autre main, que nos deux mains puissent se lever vers Dieu. Et dire, me voici, Seigneur. Et pendant que nous allons chanter ce chant, tout ce que je veux, Seigneur, lorsque vous êtes prêts, un à la fois, dans un geste de foi, si vous en sentez le désir, j'aimerais demander que pendant qu'on chante, que vous allez vous lever et vous allez le faire avec une... Ça va vouloir dire quelque chose, que vous allez le faire en pesant votre décision. Je veux me lever pour dire, je vais être rebâti. Je veux me lever pour dire, je reviens. Je veux me lever pour dire, je veux rebâtir les autres et je veux prendre ma place dans la génération de Néhémie. Alors pendant que nous chantons ce chant de consécration ensemble, quand vous êtes prêts, levez-vous pour vous consacrer et dire, tout ce que je veux, Seigneur, me voici. Je veux prendre ma place dans la génération Néhémie, être rebâti, afin de rebâtir tout ce que je veux, Seigneur, ensemble.
Oh, tout ce que je veux, Seigneur,
c'est t'obéir,
c'est de t'obéir,
de te suivre,
te servir, de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Tout ce que je veux, Seigneur,
c'est
de t'obéir, de te suivre, te servir, de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Oh, tout ce que je veux, chaque jour près de toi.
Moi qui vis, moi qui vis, c'est le jour de la vie. vos deux mains devant Dieu. Offrez-vous à lui là où vous êtes. La génération réunie, et parlez à Dieu avec vos mots, votre cœur. Allez-y ce matin. Je reviens à toi, Seigneur. Je refuse des ruines dans ma vie. Seigneur, ma louange est en ruine. Mon pardon est en ruine. Ma joie est en ruine. Ma sainteté est en ruine. Seigneur, dans mon mariage avec mes enfants, dans mon appel, dans mon ministère, je refuse des ruines. Je déclare par la foi que tu vas me rebâtir. Tu vas me rebâtir. Et je lève mon autre main pour te dire, je veux prendre ma place dans la génération bénie. Je veux m'engager, notre Dieu. Je veux me donner à toi, Seigneur. Je veux te servir tout mon cœur. Je veux faire quelque chose pour rebâtir quelqu'un. Oh, yeah.
Tout ce que je veux, Seigneur, oh, c'est de t'obéir, oh, de te suivre, de servir de tout mon cœur, Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.